Change mon cœur, Seigneur.
Votre méditation quotidienne.
Ami auditeur, bonjour. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous sommes déjà à notre 28e méditation. Alors je ne sais pas pour vous, mais elles me font le plus grand bien. Merci pour votre fidélité et que toute la gloire soit rendue à Dieu. Nos méditations sont extraites et adaptées de livres inspirés et utiles pour notre temps. Nous continuerons donc de décortiquer 2 Corinthiens 7, verset 14, à la lumière de la Bible et à travers les écrits de Randy Maxwell dans son livre « Si mon peuple prie ». Aujourd'hui, nous parlerons d'humilité. Oh, un gros morceau, comme diraient certains. Mais par la grâce de Dieu et à l'aide de son esprit, j'ai l'intime conviction qu'il nous parlera en ce matin. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques 4, verset 10. Une autre version nous dit « Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Il n'y avait pas d'erreur possible. Nous étions égarés. Je ne sais pas à quel moment cela s'est produit, mais nous avions raté une sortie. Nous nous dirigions maintenant vers l'est et le désert de la Californie, en route pour Las Vegas. Au lieu de prendre la direction de Lake Arrowhead, notre destination du week-end. Ma femme et moi avions organisé une petite sortie dans les montagnes avec le gérant de notre appartement. Il disposait d'un petit appartement en multipropriété près du lac Arrowhead. Nous pouvions en profiter pour le week-end et avions invité des amis. Notre gérant m'avait indiqué la route à suivre. Aussi, j'étais assez sûr de moi, nous dit l'auteur. Après avoir fixé le flot lumineux et continu de voitures durant près de 2 heures sur la 91, la circulation commença à se fluidifier et je pus enfin me servir de la 3e et de la 4e vitesse. Cependant, il devint évident que quelque chose n'allait plus, surtout pour Suzette, ma femme. Les panneaux n'indiquaient pas Lake Arrowhead, notre destination, mais Las Vegas. L'environnement ne devenait pas montagneux, mais sablonneux, plat et aride. Elle me suggéra donc de quitter l'autoroute pour que nous nous renseignions. Maintenant, savez-vous ce que je fais? J'ai gentiment souri à mon épouse, désorientée, mais pourtant sincère. Il lui est dit « Pourquoi ? Nous ne sommes pas perdus. » Ces 7 petits mots provoquèrent une recherche frénétique dans le paysage californien désertique. Nous ne pûmes arriver avant 10 heures du soir, c'est-à-dire avec 3 ou 4 heures de retard. Finalement, je m'arrêtai à 2 reprises pour demander des informations. Poussant sur l'accélérateur et serrant le volant, j'enrageais. M'en prenant tantôt à la route, tantôt à notre véhicule trop lent et au soleil refusant d'attendre de se coucher avant que nous ne soyons arrivés, je me mis à critiquer chaque chose et chaque élément, sauf le véritable coupable, moi. Je ne voulais pas admettre que j'avais commis une erreur, que je m'étais trompé à ce point. Mon amour-propre m'avait poussé à mettre en doute le bien fondé des remarques de Suzette, ma femme, et empêché de faire demi-tour. Pour couronner le tout, nous avons réalisé en arrivant que l'un des 2 couples était déjà sur place. Très énervé et en sueur, je m'approchais de leur voiture pour m'excuser de mon retard. Je leur demandais comment ils s'y étaient pris pour trouver le lieu et depuis combien de temps ils nous attendaient. L'épouse du couple me lança un sourire lumineux et me dit « Nous venons tout juste d'arriver. Nous nous sommes également égarés, mais j'ai prié et chanté des cantiques. J'étais persuadé que nous arriverions à bon port. » Ces quelques paroles eurent sur moi l'effet d'une gifle. Quel contraste dans nos comportements. 2 couples évoluant dans 2 véhicules différents, chacun ayant perdu son chemin et accusant du retard. Dans l'une des voitures, un fou furieux, les yeux exorbités, et dans l'autre, une fille de Dieu priant, louant et chantant en toute confiance. Vous pouvez vous imaginer combien cela m'a exaspéré. J'étais fatigué, nerveux, démoralisé et répréhensible. De plus, j'avais raté mon souper. Une modeste part de tartre ne descend pas aisément dans un estomac vide. Pourquoi nous mettons-nous dans de tels états lorsque nous devons admettre que nous avons emprunté la mauvaise sortie? Une fois engagés dans une certaine ligne de conduite, il semble que seul le désappointement et l'échec démoralisateur peuvent nous convaincre de nos erreurs. Une fois qu'une idée est ancrée, il est extrêmement difficile d'en changer. Vous pouvez constater cela dans tous les domaines de la vie, à la maison ou au travail, ainsi qu'à l'église. Le Seigneur sait toujours ce qu'il fait quand il essaye de nous faire revenir sur le droit chemin, quand il signale des aspects de notre vie ayant besoin d'être rectifiés. Pourquoi s'agit-il d'une tâche si ardue pour Dieu ? Parce que nous n'admettons pas facilement l'évidence de notre besoin de changer. Aussi, est-ce là la raison pour laquelle nous avons un besoin urgent d'entendre et de comprendre ce que nous dit Dieu dans 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, et donc il s'adresse pas à des étrangers ici, il nous parle à vous et à moi. Nous sommes siens, nous lui appartenons. Il s'adresse aux brebis de son pâturage, pas à des ennemis. Il dit ensuite, sur qui est invoqué mon nom? Nous sommes donc une nouvelle fois invoqués par son nom. Son caractère, ses attributs et son existence sont maintenant nôtres. Nous partageons une histoire, son histoire, une mission, sa mission, un royaume, son royaume. Nous portons son nom et avons les fonctions d'ambassadeur pour Christ, un peu comme si Dieu adressait son appel par notre biais. Il dit enfin « s'humilie ». Remarquez dans ce mot qu'il s'agit dans ce message de Dieu de la première directive d'une série de quatre. Avant qu'il ne nous soit demandé de prier, de chercher ou de nous détourner, il nous est requis de nous humilier. L'humilité vient avec l'écoute. Il est affligeant de constater que la nature humaine n'écoute que trop rarement la raison. Nous faisons habituellement la sourde oreille devant un problème quelconque, jusqu'à ce que l'explosion nucléaire, entre guillemets, se produise et que nous ne soyons obligés d'écouter. Examinons par exemple le message que Dieu adressa aux Laodicéens dans Apocalypse 3. Nous n'aimons pas entendre dire que nous sommes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Cela ne correspond pas à la vision que nous avons de nous-mêmes. Nous avons reçu une bonne instruction. La plupart d'entre nous ont une maison confortable, une ou deux voitures, ou un emploi stable. Spirituellement parlant, nous pouvons être un peu desséchés, mais nous possédons la vérité. Aussi, sommes-nous sur le droit chemin ? Nous savons que ce message est destiné à notre Église, mais nous croyons qu'il s'applique surtout à toutes les autres. Récemment, j'ai fait une étude du verbe « humilier », tel qu'il apparaît dans 2 Chroniques 7, verset 14. Le terme hébreu utilisé est « karna ». Cela signifie « fléchir le genou »,« humilier »,« vaincre », »,« amener à la soumission à travers une humble obéissance ». L'idée est celle de s'incliner docilement devant une plus grande autorité, soumettre ou vaincre sa propre fierté, ses plans, son moi, accorder une totale allégeance à un autre. N'est-ce pas intéressant de constater que karna signifie fléchir le genou, surtout lorsqu'il est demandé de prier ensuite, n'est-ce pas? Se pourrait-il que l'acte de la prière implique une humiliation de soi? Le fait de nous agenouiller nous place dans une attitude d'humilité où notre ego, notre attitude et nos projets sont laissés de côté pour que les seuls plans de Dieu occupent la toute première place. Ne s'agit-il pas de ce que nous avons le plus besoin de la part de Dieu? Je pense que oui, nous dit l'auteur. Considérons maintenant ces cas historiques de personnes s'étant humiliées devant Dieu et de ce qui se produisit par la suite. Considérez leur humilité. Le premier exemple que nous prendrons est celle du roi Josias. Il se trouvait en effet au sein d'un grand mouvement de réforme en Juda, ayant débuté alors qu'il avait à peine 20 ans. Il se lança dans une guerre sans merci contre l'idolâtrie, démolissant les autels de Baal, réduisant en morceaux les poteaux dressés pour Astarté et les idoles placées sur les autels, allant même jusqu'à brûler les os des prêtres qui offraient de tels sacrifices. 6 années plus tard, il poursuivit sa réforme en reconstruisant le temple de Dieu tombé en ruine durant la longue période d'adoration de Baal. Pendant cette restauration, Hilkija, le prêtre, découvrit le livre de la loi, enfoui dans les ruines et le fit lire au roi par son secrétaire Shaphan. Voici ce qui se produisit lorsque Josia entendit les paroles de la loi de Dieu. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. 2 Chroniques 34, verset 19. Il sollicita aussitôt que le Seigneur lui indique le sens de ses paroles. Ce fut à travers la bouche de la prophétesse Hulda que le Seigneur répondit « Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié » et le terme utilisé est « karna » « devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi » j'ai entendu, dit l'Éternel, verset 27. Tu as déchiré tes vêtements et tu as pleuré. Sont les verbes d'action indiquant l'humilité de Josia. Il s'est trouvé dans de telles dispositions que son cœur était tendre, docile et ouvert au Saint-Esprit. Votre cœur se montre-t-il tendre vis-à-vis de Dieu? Toi qui écoutes aujourd'hui, comment réagis-tu devant les réprimandes et les blâmes? Si la vérité te heurte, as-tu tendance à tourner le dos, à manifester de la rancœur et à adresser des messages à ton pasteur, ton ancien, ton ami ou ce membre d'église pour le remettre à sa place et l'avertir de battre en retraite? Dieu est en quête de cœurs semblables à celui de Josia, des cœurs tendres, pouvant se briser et répondre à son esprit. Lorsqu'il les trouve, lorsque ce fut le cas pour le peuple de Dieu sous le règne de Josia, l'alliance est restaurée et le réveil se produit. Alors le second exemple est celui d'Élie. Élie se présenta devant Akab, roi d'Israël, lequel venait d'accorder la vie à Ben-Hadad, roi vaincu d'Aram. Mais s'était emparé du vignoble de Naboth, une fois que sa femme Jézabel ait manigancé la mort prématurée de ce dernier. Le fougueux prophète lui déclara « Je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab. » Celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Vous trouvez ce passage dans 1 Rois 21, verset 20. Quelques versets plus loin, l'auteur des Rois inséra cette parenthèse sur la vie d'Akab. Il dit « Il n'y a eu personne qui ne soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant près des idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. » Versets 25 et 26. Comment Akab répondit-il à la parole de Dieu? Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il dormait avec ce sac. Il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié, et le terme utilisé est karna, devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Versets 27 et 29. Comprenez-vous cela? Malgré la méchanceté d'Akab, à partir du moment où il s'humilia devant Dieu et manifesta de façon visible sa souffrance pour son péché, Dieu épargna à Akab le fruit de sa rébellion. Quel est l'élément que je mets en exergue par cette illustration? Pensez-vous que pour nous humilier aujourd'hui, il faille déchirer nos vêtements, faire l'acquisition d'un poncho en laine et que nous marchions tête baissée en fixant le sol? Non. La nouvelle alliance nous invite à confesser nos péchés, car Jésus est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1 verset 9. Nous avons tout intérêt à exprimer sur nos genoux et devant Dieu la souffrance que nous éprouvons pour nos péchés. S'humilier devant Dieu, c'est exprimer de la peine et du remords pour les pensées et les actions ayant jeté le discrédit sur Dieu et son royaume. Si vous vous humiliez, du terme karna, devant Dieu, admettez vos erreurs et soyez spécifique, expliquant à Dieu à quel point votre péché a jeté le discrédit sur lui et altéré votre témoignage vis-à-vis des gens de votre entourage. J'écris souvent mes prières dans un journal. Je fais cela depuis des années car, pour moi, écrire semble m'aider à fixer mes pensées et à m'éviter de divaguer. Mon journal rassemble toute une gamme d'expériences de joie, d'émotions et de luttes. Une portion de mon journal datée du 28 décembre 1993 débute ainsi. Seigneur, je lutte avec mes lèvres. Trop souvent, je cède à la tentation de médire au sujet d'un membre de ta famille. Je dissimule un mépris secret à l'égard de certaines personnes. Je te supplie de me pardonner. Remplace par ta compassion toute malice en moi et place un gardien sur mes lèvres. Le fait d'être spécifique et honnête au sujet de nos péchés nous évite de contourner la vérité nous concernant et de considérer le péché avec légèreté. Ami auditeur, une fois que tu as dit cela, que tu as confessé, sens-toi libre de poursuivre ta prière, sachant que Dieu t'a pardonné et qu'il a jeté au fond de la mer tous tes péchés. Michée 7, verset 19. Le troisième exemple est celui de Moïse qui se trouvait sur le mont Sinaï. L'Éternel lui expliqua clairement les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance des enfants d'Israël. La rébellion a des effets très désagréables. Malgré la fermeté de son langage, l'Éternel révéla une fois encore son désir de nous manifester de la compassion. Et alors, leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leur iniquité. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham et je me souviendrai du pays. Lévitique 26, verset 41. De nos jours, plus personne ne désire entendre parler de discipline ou d'en subir les effets. Il faut reconnaître que des abus se sont produits au sein de l'Église et que, désireux de se débarrasser des péchés, certains membres d'Église se sont érigés en Cerbères, sans la moindre trace d'esprit chrétien. Néanmoins, ces abus indiquent-ils que l'Église est incapable d'infliger des sanctions de façon rédemptrice et d'aborder ouvertement le péché? Faut-il regarder de l'autre côté et ignorer le péché? Ou ne faut-il pas se sentir responsable des commandements donnés par celui qu'on a publiquement proclamé comme étant Sauveur et Seigneur? L'auteur nous dit que son désir n'est pas d'ouvrir une discussion sur la discipline de l'Église. Quelqu'un d'autre pourra le faire. Il aborde ce sujet car Dieu, le Tout-Puissant, nous dit qu'avant de le chercher pour connaître un renouvellement et une transformation de notre triste condition actuelle, nous devons nous humilier, du terme karna, et reconnaître que nous sommes spirituellement affamés. Cela signifie qu'il nous faut accepter d'être guidés pour revenir à Jésus. S'humilier devant Dieu vis-à-vis de nos péchés est essentiel, car c'est à cet instant précis que se produit le réveil. Cependant, Dieu adresse un message de reproche à son Église, laquelle doit également réagir par le terme karna, c'est-à-dire par l'humilité. Ce matin, Dieu parle à nos cœurs. Il nous montre le chemin. Il nous montre la voie de l'humilité. Et nous voulons par notre prière ce matin manifester à Dieu notre désir d'obéissance, notre désir de transformation. Si c'est possible pour vous, prosternons-nous. Sinon, inclinez la tête et nous prierons ensemble. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'éternité, toi qui nous as créés et toi qui désires nous, notre bien. Tendre Père, nous venons à tes pieds te demander pardon. Pardon pour nos péchés commis. Pardon pour toutes ces choses, Seigneur, que nous faisons qui nous éloignent de toi. Père, en ce matin, nous désirons nous humilier de tout cœur devant toi. Transforme-nous, nous te prions, et accorde-nous un cœur tendre, acceptant d'être brisé pour qu'enfin un réveil sans précédent se produise dans ton Église, dans nos cœurs, dans les familles, dans les foyers. À l'instar d'Akab, Seigneur, nous désirons nous humilier devant toi, afin que, comme tu l'as fait pour lui, tu épargnes à ton Église des malheurs sans précédent et sans nombre. Père, libère-nous de ces péchés auxquels nous nous accrochons, consciemment ou inconsciemment, et transforme-nous, nous te prions. Seigneur, tu es le potier et nous sommes des vases d'argile. Brise-nous, façonne-nous, c'est notre désir aujourd'hui. Lave-nous dans le sang précieux de Jésus, purifie-nous, que nous soyons purs devant toi. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Montre-nous le chemin que nous y marchions et que ton esprit se révèle dans nos vies aujourd'hui une fois de plus et que tous ceux qui nous voient, voient Jésus vivant à travers nous. Nous t'avons prié non pas que nous soyons dignes, mais au nom de ton Fils Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.
C'était Change mon cœur, Seigneur, votre méditation quotidienne tous les jours, 8h30, 19h. Et tout de suite, en replay.
Tout au fond de mon cœur, oui, tu m'as délivré. Jésus, tu as